Delhi. Deuxième partie. La mission de Blangard. Chapitre 1. Sous les agiles petits doigts d'Inès, le grand tricot gris destiné à une couverture de berceau avançait rapidement. Avant de quitter Lima, elle pourrait faire un envoi pour les pauvres de la bonne sœur Jeanne, car, pendant la traversée déjà, elle avait bien travaillé dans ce but, et de même, depuis ces 6 jours où elle se trouvait dans la capitale du Pérou. Blangard s'était arrêté là pour conclure des arrangements avec le gouvernement péruvien et pour engager les péones nécessaires au service de l'expédition. Il fallait en outre armer ceux-ci en prévision d'une attaque des bandits. Blangard et les siens avaient pu se convaincre que le roi des Andes et ses partisans exerçaient dans toutes les républiques sud-américaines une véritable souveraineté due à la crainte qu'ils inspiraient par leurs manœuvres mystérieuses, leurs apparitions soudaines, leurs exécutions très promptes et l'impénétrable secret qui entourait leur personnalité. Nul, cependant, ne les accusait de cruauté. Ils mettaient même dans leurs actes de brigandage une certaine apparence de justice. Ainsi, il n'y avait pas d'exemple qu'ils eussent attaqué et ravagé les domaines d'un homme de bien. Seuls les Hacenderos, trop durs ou avares, ou ayant acquis plus ou moins illégalement leur fortune, se voyaient rançonnés par eux, et s'ils résistaient, avaient leurs domaines détruits et pillés. Plusieurs avaient disparu et on supposait que le roi des Andes les avait mis à mort ou les retenait dans son mystérieux et inexpugnable repaire de la montagne. Les autorités péruviennes et le consul de France lui-même avaient fort engagé Blangard à renoncer à son projet. « Vous aurez bien de la peine à leur échapper. Dans les passes étroites où vous serez obligés de vous engager, ils seront les maîtres de votre vie. Ce sont des gens d'une bravoure folle et leur chef est un être d'une extraordinaire habileté. » Il fallait vraiment que la cupidité fût immense chez Blangard pour l'emporter, malgré tous ses avis, sur sa pusillanimité habituelle. Ses enfants, pas plus que lui, ne voulaient renoncer à l'espérance fabuleuse qui les attirait vers ces dangereux parages. Mais ils n'avaient trouvé que très difficilement, et à prix d'or, des péones voulant bien se risquer à tenter l'aventure. Inès et Jacques avaient été tenus en dehors de tous ces pourparlers. Ils auraient ignoré les dangers qui les attendaient si Jacques, un jour, n'en avait été un peu averti par quelques mots, échangés devant lui par Blangard et le patron de l'hôtel où ils étaient descendus. « En ce cas, pourquoi s'embarrasse-t-il de nous ?» avait pensé Inès, de plus en plus surprise et très inquiète. Ce voyage qui, en toute autre compagnie, eût été un vif plaisir pour elle, ne lui avait procuré que de l'ennui. Outre le désagrément de se trouver sans cesse sur le paquebot en contact avec les Blangard, elle avait eu à subir les attentions empressées dont l'entourait Maxence. Sans paraître remarquer sa froideur, il lui avait fait une cour continuelle, se posant si bien en prétendant qu'en négociant d'origine espagnole mais naturalisé français, qui voyageait en même temps qu'eux, le seigneur Ramon Selvado avait dit un jour au député « Vous allez les fiancer bientôt, ces deux jeunes gens-là » Maxence avait ainsi obtenu le résultat tout opposé à celui qu'il cherchait. D'antipathique seulement, il était devenu odieux à sa cousine. Depuis leur arrivée à Lima, elle en était un peu délivrée. Il visitait la ville et les environs avec Edmé, qui avait déclaré ne pas vouloir s'embarrasser des deux enfants. En réalité, elle était furieuse de voir, lorsqu'elle sortait avec sa cousine, tous les regards se portaient vers Inès, et elle s'était mise à détester celle-ci, à lui faire 1000 petites méchancetés qui rendaient la vie réellement pénible à la jeune fille. Aussi, Inès se trouvait-elle vraiment tranquille aujourd'hui. Tous les Blangard étaient partis dès le matin pour une excursion aux environs avec le consul de France, ami politique du député. Elle avait assisté avec Jacques à une messe matinale dans une de ces églises dont la somptuosité, trop souvent de mauvais goût, étonnait toujours son goût affiné. Elle s'était promenée un peu avec lui le long des rues bordées de maisons à l'italienne. Puis, ils étaient revenus à l'hôtel tenu par un Français où ils avaient déjeuné en compagnie de M. Hamlet, le savant minéralogiste attaché à la mission Blangard et de Ramon Selvado. Ce dernier, un homme d'une cinquantaine d'années, avait auparavant à Paris une importante maison de commerce qui faisait de fort belles affaires. Puis, une concurrence s'était établie, les bénéfices avaient baissé, les embarras s'étaient accrus d'année en année, si bien que Ramon Selvado s'était trouvé acculé à la faillite. Il avait évité cependant, grâce à l'aide généreuse d'un ami, disait-il. Après avoir liquidé sa maison, il était parti pour le Chili, où on lui offrait une position lucrative comme représentant de commerce. Mais, avant de s'y rendre, il était venu à Lima pour y conclure quelques affaires. C'était un homme aimable, d'apparence sérieuse et plutôt sympathique, et qui paraissait très serviable. Mais il avait parfois certaines réticences, certaines gênes qu'avait remarquées Inès. Elle se trouvait en ce moment assise près du mirador, d'où elle pouvait voir le mouvement de la place sur laquelle s'élevait l'hôtel. Monsieur Selvado traversait cette place pour entrer. Un homme qui venait en sens inverse, un grand garçon brun, au costume plutôt dépenaillé, l'aborda et lui dit quelques mots. Inès vit le négociant sursauter, puis faire un geste qui semblait celui d'un être résigné. L'homme s'éloigna, tandis que Monsieur Selvado rentrait à l'hôtel. Comme 4 heures sonnaient, Inès se leva afin d'aller voir ce que devenait Jacques, qu'elle avait laissé en train de dessiner dans le salon de l'hôtel. En portant son tricot, elle descendit et trouva son frère occupé à demander un renseignement à Monsieur Selvado, qu'il avait arrêté au passage. « Tu sais, c'est pour cette inscription de la cathédrale dont tu ne comprends pas le sens, Inès. Monsieur Selvado dit... » Il s'interrompit en s'élançant vers la fenêtre. « Oh, le bel équipage ! Quels chevaux ! Viens voir, Inès !» Sur la place apparaissait une calèche superbe, attelée de chevaux aux formes admirables, à l'allure pleine de feu, harnachée avec une sombre magnificence. Cocher et valet de pied portaient un costume péruvien d'une grande richesse. Cette voiture était occupée par une seule personne, dont la vue faillit faire jaillir des lèvres d'Inès une exclamation de surprise. Rêvait-elle, dans ce jeune homme à la mine fière, au beau visage impénétrable et quelque peu dédaigneux, elle croyait reconnaître l'étranger dont l'automobile avait failli, naguère, écraser ce petit garçon qu'elle avait sauvé. Machinalement, elle se détourna pour adresser une question à M. Selvado. Mais elle resta muette en le voyant très pâle, la bouche un peu crispée, les yeux fixés sur le superbe équipage qui s'éloignait au trot de ses chevaux blancs. « N'est-ce pas que tu n'en as jamais vu de semblable, Inès ?» s'écria Jacques avec enthousiasme. « Voilà comme j'en voudrais. Je vais demander à M. Maillet, qui est l'heureux propriétaire de cette voiture. » Il s'élança hors du salon et sa sœur le suivit. Elle, si peu curieuse d'habitude, avait un singulier désir de connaître le nom de cet étranger. Jacques se heurta presque au Blangard, rentrant de leur excursion. Edmé, qui semblait très animé, s'écria en s'adressant au patron de l'hôtel. « Dites-moi donc, monsieur Maillet, quel est ce jeune homme si beau et de si grand air que nous venons de voir passer dans un équipage merveilleux ?» L'équipage de mes rêves. Tiens, c'est comme moi, dit Jacques, et je venais aussi savoir le nom de cet heureux mortel. C'est le comte de la Roche-Gléon, le beau Don Miguel, comme on l'appelle ici. De la Roche-Gléon, dit Maxence, c'est un nom français, ça. Je l'ai vu dans les chroniques mondaines de Paris. Oui, il est d'origine française. Son grand-père a émigré jadis. Il est certainement le plus riche haciendero de toute l'Amérique du Sud. C'est un homme d'une rare intelligence, d'une générosité extrême, mais excessivement fantasque et original. Bien qu'il ait, à son hacienda de Santa Lucia, de même qu'ici, une installation magnifique, il ne reste jamais que très peu de temps au même endroit et voyage sans cesse d'un bout du monde à l'autre. Il s'en va subitement et reparaît de même. En outre, il a la singulière idée de s'entourer de serviteurs appartenant à toutes les nationalités possibles. « Il a peut-être bien quelque chose là, » dit M. de Blangard en se frappant le front. « Oh non, certes, si vous aviez seulement rencontré une fois son regard, vous n'auriez pas cette idée, monsieur le député. Quels yeux ! il ferait aller les gens jusqu'au bout du monde. « Est-il marié ?» interrogea Edmé, qui écoutait tous ces détails avec un vif intérêt. « Non, mademoiselle, vous pensez pourtant si les seigneurises guettent un parti comme celui-là. Mais on dit que cet homme-là est de glace et qu'il n'existe au monde qu'une seule personne capable de l'intéresser, c'est lui-même. Et il a bien raison, il n'y a vraiment que celle-là d'intéressante, » ricana Maxence. Il s'interrompit en apercevant Inès et reprit aussitôt, « Sauf, naturellement, jusqu'au jour où nous découvrons celle qui doit nous être plus chère que tout. » Edmé lui lança un coup d'œil narquois en retenant avec peine un éclat de rire. « Tu deviens sentimental, mon cher ami. Cela te va, du reste. N'est-ce pas, Inès, que cela lui va bien ?»« Non, je ne crois pas que ce soit dans la nature de mon cousin, » riposta froidement Inès. « Par exemple, qu'en savez-vous ? » protesta Maxence. « Je le suis, au contraire, extrêmement, Inès. Tenez, cet Edmé qui se moque de tout l'est aussi. Je parie que ce bel étranger qu'elle vient seulement d'entrevoir lui a mis la tête à l'envers et le cœur aussi. » Sa sœur lui jeta un coup d'œil de colère en levant brusquement les épaules. « Tu ne parles que pour dire des stupidités. Va-t'en donc voir plutôt si Luré et compagnie se conduisent convenablement à l'auberge où tu les as nichés. Zut, ma petite, ils s'arrangeront comme ils voudront. D'ailleurs, ce sont des agneaux, des gens tout à fait sérieux et paisibles. Tiens, autant que ce brave savant-là. » Et d'un geste moqueur, il désignait un petit homme chauve, vêtu d'une houppelande grise, qui s'avançait d'un air absorbé. C'était M. Hamlet, le minéralogiste, brave homme, dont l'esprit était généralement absent de la conversation qui se poursuivait autour de lui. Jacques s'élança vers lui et passa son bras sous le sien. « Monsieur Hamlet, vous allez me donner une leçon de minéralogie ?» Le jeune garçon aimait beaucoup les sciences naturelles et le savant et lui étaient devenus une paire d'amis. « Dans un moment, s'il vous plaît, mon jeune ami, car j'ai une petite course à faire. Voulez-vous venir avec moi ?»« Je crois bien. Et Inès aussi ?»« Certainement, si mademoiselle Inès veut bien. » Inès acquiesça et alla mettre son chapeau. Quand elle reparut, elle vit que Maxence était resté avec le savant et Jacques et sentit une bouffée de colère lui monter au cerveau en l'entendant déclarer que lui aussi était de la promenade. Après la petite course de M. Hamlet, ils revinrent lentement, regardant passer les équipages élégants où trônaient de jolies péruviennes aux toilettes somptueuses et voyantes. Puis, voyant Inès admirer à la devanture d'un magasin des broderies dues aux doigts habiles des brodeurs de Cusco, Maxence voulut absolument entrer pour en offrir une à sa cousine. Elle dut, bon gré mal gré, recevoir ce présent dont l'aimable cousin ne fut remercié qu'autant qu'elle exigeait la stricte politesse. Comme Maxence mettait la main à sa poche pour prendre son porte-monnaie, ses doigts rencontrèrent un papier qu'il sortit. C'était une feuille de vélin noir portant au centre un cercle rouge entouré de rayons. Le jeune homme pâlit. « Ah ça, est-ce que ces imbéciles vont nous poursuivre jusqu'ici ? » murmura-t-il entre ses dents. « Je voudrais bien savoir ce que c'est que ces fumistes-là. Et quand donc a-t-on pu me glisser ça dans ma poche ?» Il était très sombre en revenant, au grand contentement d'Inès, ainsi délivré de ses amabilités. Aussitôt rentré, il s'en alla à la chambre de son père. Il trouva Blangard affaissé dans un fauteuil et Edmé debout, les sourcils froncés, la mise furieuse. « Eh bien, qu'est-ce que vous avez ?» s'exclama Maxence. « Tiens, regarde !» cria Edmé. « Regarde ce que ces misérables imbéciles ont mis ici pendant une absence de 5 minutes qu'a faite mon père. » Il s'avança et eut un sursaut d'effroi. Sur le lit de Blangard, une Navarra retenait piqué un papier semblable à celui qu'il avait trouvé tout à l'heure dans sa poche. « Ah ça, qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces mauvais plaisants ? » s'exclama-t-il. « Notre expédition ne leur plaît décidément pas et ils voudraient nous en détourner par des moyens ridicules. Mais comment a-t-on pu entrer ici ? L'hôtelier serait-il complice ?»« Dame, ce serait à voir, » dit Edmé. « Fais-le donc monter. » « Allons, secoue-toi, papa. Tu as l'air à moitié pâmé à cause de cette fumisterie. » Une fumisterie, j'ai bien peur que ce soit autre chose, balbutia le député. Mais tu as raison, il faut faire venir M. Maillet. Quand l'hôtelier, en entrant dans la chambre, vit la navaja et la feuille de vélin, il s'arrêta, frissonnant, cloué au sol. « Les frères de la justice » balbutia-t-il d'une voix étranglée. « Ah, vous les connaissez ?»« De réputation, certes. Il n'y a relativement pas très longtemps qu'on en entend parler, mais ils sont devenus une puissance avec laquelle tout le monde compte, y compris le gouvernement. »« Mais qui sont-ils ?» Voilà ce qu'on ignore. On sait seulement qu'ils existent par leurs actes. Tenez, quand nous avons ici une révolution, celui des candidats au gouvernement qui est secrètement appuyé par les frères de la justice est sûr de réussir. Je dois dire que c'est toujours le moins mauvais de tous qui est ainsi favorisé. D'ailleurs, ces êtres mystérieux semblent désireux de justifier le titre qui les désigne. S'ils font mourir quelqu'un, c'est que cet homme ou cette femme avait commis quelque crime caché, demeuré impuni ou fait quelque tort considérable à autrui. Ces étranges justiciers prétendent réparer les ignorances réelles ou voulues, les injustices, les complaisances coupables de la justice légale. Tenez, il y avait ici un riche Péruvien qui se nommait Don Pedro Meguillo. C'était un homme d'un orgueil démesuré et d'une dureté de cœur incroyable. Défaut qui existait à un degré égal chez sa femme, la fière Doña Maria, dont toute la préoccupation consistait à se parer pour éclabousser de son luxe toutes les seigneuras de Lima. Don Pedro avait un neveu et une nièce, très peu fortunés, qu'il avait réussi à frustrer d'un héritage devant légitimement leur revenir. Non content de cette mauvaise action, le mari et la femme les accablaient de dédain et leur faisaient tout le tort possible. À cause de leur fortune et de leur noble origine, ces Meguillo avaient néanmoins une grande influence à Lima et dans la contrée. On les craignait sans les estimer. Mais voilà qu'un jour, Don Pedro fut trouvé poignardé dans le patio de sa maison, avec ces mots, tracés en lettres rouges, sur un papier attaché aux manches de la navaja. Les frères de la justice ont vengé de pauvres orphelins, lâchement abandonnés par la justice de leur pays. Quant à Doña Maria, elle avait disparu et on n'en entendit plus parler. Lorsqu'on vit qu'elle ne reparaissait pas, on mit les neveux en possession de l'héritage de leurs mauvais parents. Et là encore, la mystérieuse association joua son rôle. Car les juges avaient eu tout d'abord la velléité d'accuser de ce meurtre les orphelins qui en profitaient. Mais ils changèrent tout à coup d'avis, et je me suis laissé dire qu'ils avaient reçu un si terrible avertissement que point n'était besoin d'aller chercher ailleurs la cause de leur volte-face. « Mais c'est un peu effrayant, cela, » dit le député d'un ton perplexe. « Et comment expliquez-vous qu'on soit entré ici ?»« Ah, ils en font bien d'autres, monsieur le député. Ce Don Pedro dont je vous parlais fut tué en plein jour, à 8 heures du matin, dans son patio, alors que sa demeure était pleine de serviteurs. Alors, un de ceux-là était complice ? Qui peut savoir ? Cette association possède une force mystérieuse, une puissance terrible. Mais il a été jusqu'ici impossible de rien surprendre des moyens employés par elle. En tout cas, monsieur Maillet, vous ferez bien de surveiller vos domestiques, dit Edmé. Évidemment, ce ne peut être que l'un d'eux qui se soit permis ce que je veux considérer comme une plaisanterie. Quand l'hôtelier, qui semblait fort ennuyé, fut sorti après avoir présenté toutes ses excuses, Maxence dit, en donnant un coup de poing sur la table, « Est-ce que ces imbéciles voudraient s'imaginer de contrecarrer nos affaires ? On croirait vraiment qu'ils ont eu vent de ce que nous allons faire là-bas. » Ce n'est pas impossible, car M. Desnardières avait pu montrer le document à quelqu'un qui n'en a pas oublié le contenu. Rappelle-toi déjà comme, à Paris, ils ont essayé de nous effrayer avec leurs petits papiers. Sans parler de celui qui fut attaché aux vêtements du jeune Bille, nous n'en avons pas trouvé moins de 4 chez nous, malgré la précaution que nous avions eue, après les 2 premiers, de renvoyer domestiques, cuisinières et femmes de chambre pour en prendre de nouveaux. Évidemment, ce sont des gens très habiles, sachant se faire des intelligences partout. Mais nous n'avons aucunement envie de leur céder le terrain. La perspective qui nous attend est trop éblouissante. Voyons, papa, ne prends pas cette figure de malheureuse égorgée. Quoi qu'en dise ce brave Maillet, je maintiens que ces frères de la justice ne sont que de vulgaires fumistes. » Elle ne disait plus cela ce même soir, Mademoiselle Edmée de Blangard, lorsque, en arrivant dans sa chambre pour se coucher, elle vit son petit chien japonais cloué sur le sol par un long poignard au manche duquel s'enroulait un papier portant ces mots, suivi du signe habituel figurant le soleil : « Les frères de la justice ne sont pas des fumistes. » Au cri d'Edmée, Blangard et son fils accoururent. Le député s'en alla en hâte chez le consul afin de lui demander d'intervenir près de la police. Mais il reçut cette réponse : « Personne ici ne cherchera jamais à s'attaquer à cette mystérieuse association. Elle peut tout et elle est invulnérable. » « Pourtant, monsieur Gleuze, vous n'allez pas admettre qu'un citoyen français puisse être molesté impunément par ces bandits ?» s'écria le député furibond. « Français ou non, tout doit plier devant eux. L'année dernière, un riche Anglais qui voyageait à travers ce pays a disparu. Tous les efforts du consul d'Angleterre se sont heurtés à l'inertie du gouvernement péruvien. Et comme ce consul insistait toujours, menacé même, il reçut de la mystérieuse société cet avertissement : « Si vous ne vous tenez pas tranquille, nous vous punirons. » Il continua quand même. Et un beau jour, son fils, un enfant de 9 ans, disparut sans qu'il fût possible de retrouver sa trace. On découvrit seulement dans la chambre du petit Willy un papier portant ces mots : « Si vous voulez le revoir, hissez à la porte de votre demeure un drapeau blanc pour montrer que vous cessez toutes recherches indiscrètes sur le sort de Sir Harry Pullman. » Le malheureux père fit ainsi et, un matin, on trouva le petit Willy endormi sur son lit, frais et bien portant. Au réveil, il raconta qu'il ne savait pas du tout comment on l'avait enlevé, qu'il s'était seulement trouvé un jour dans une espèce de grotte où une femme âgée, à l'air sévère, venait lui apporter une très bonne nourriture. Elle lui avait donné aussi des jouets et des livres enfantins, et quand il pleurait en réclamant ses parents, ou quand il essayait de l'interroger, elle répondait seulement « Ne crains rien, tu reverras ton père et ta mère. Ce n'est qu'un peu de temps à passer. » « Extraordinaire !» s'exclama le député. « Ainsi donc, il faut tout supporter de la part de ces coquins, mais ils en arriveront à nous assassiner. Aussi serait-il plus prudent de renoncer à poursuivre votre mission, car elle a l'air de fortement leur déplaire. » « Renoncer à reculer devant ces lâches qui se cachent !» s'exclama Blangard avec un geste superbe. « Allons donc, Gleuze, c'est une plaisanterie !» « Cela serait de la prudence, je le répète. Ils sauront vous atteindre partout, malgré toutes les précautions. » Blangard se campa en face du consul dans une attitude héroïque. « Mon cher, écoutez bien ceci. Le gouvernement m'a donné une mission. Il est de mon devoir d'aller jusqu'au bout, dussé-je y laisser ma peau. »« Ah, très bien, très bien. Vous êtes un héros, Blangard, » dit le consul d'un ton admiratif. Mais, en lui-même, il songeait « Quel intérêt puissant peut-il bien avoir à risquer pareille aventure, à braver de tels obstacles ?» S'il avait pu pénétrer dans l'âme de son estimable ami, il aurait vu que celui-ci n'était rien moins que rassuré. Si Blangard avait été seul, il n'aurait peut-être pas eu le courage d'aller de l'avant quand même. Mais Maxence et Edmée, furieux contre ses ennemis invisibles, inquiets pour l'éblouissante fortune rêvée, avait décidé que l'on poursuivrait coûte que coûte, et Anatole de Blangard s'était soumis, comme toujours, à l'omnipotente décision de ses enfants.